Lille, il est 9h.
Les 4 jours de Dunkerque ont été l'occasion cette année d'une traversée de l'ensemble des départements des Hauts-de-France. Avec une grande nouveauté pour cette édition 2025, l'introduction d'une course inaugurale, la classique. Cette épreuve s'est déroulée mardi 13 mai sur près de 200 km entre Dunkerque et Lens. L'occasion de recueillir après l'épreuve les précisions et les impressions du président de l'organisation à la Maison syndicale des mineurs de Lens sur cette course mythique des Hauts-de-France.
Éric Marchini, président des 4 jours de Dunkerque.
Et donc, c'est une grosse organisation. Ça reste encore une association ?
Ah oui, complètement. On est associatif. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun bénévole chez nous qui est payé. Tout le monde est bénévole, sauf deux assistantes. Mais sinon, on est 140 bénévoles à travailler toute l'année.
Donc, combien d'étapes dans ce tour de 2025 ?
Alors, il y a la première, donc aujourd'hui, qui est une étape en tant que telle. Donc, on a un vainqueur et tout est terminé pour aujourd'hui. Et demain, on commence pour 5 étapes, jusque dimanche.
Donc, l'idée, c'est de traverser l'ensemble des Hauts-de-France en termes de départements ?
Absolument, absolument. On va faire tous les départements. Il n'y a que le département de l'Aisne où on n'aura pas de départ ou d'arrivée, d'étape, mais on va traverser tout le département. Et donc, on va faire du kilomètre. On va faire plus de 1000 km sur ces 6 jours. Donc, c'est costaud. Mais on le fait. Et on s'appelle 4 jours de Dunkerque Grand Prix des Hauts-de-France. Donc, oui, on fait tout ça. Et on est très content de le faire.
Donc, Lens, c'est un bon point de départ pour lancer cet ensemble de personnes et aussi d'accompagnants.
Je ne dirais pas que Lens est un bon point de départ parce qu'aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, on a créé une classique. Et Lens va rester dans la mémoire des 4 jours de Dunkerque comme étant la première classique avec une arrivée et un départ de Dunkerque. Donc là, on est sur quelque chose qui est très carré. Et après, demain, à Sainte-Catherine-les-Arras, on démarrera et on continuera jusqu'au retour à Dunkerque dimanche prochain.
La population était au rendez-vous, le public ici à Lens ?
Oui, mais sur toute la route. Ce qui est très très plaisant, c'est quand vous, sur tous les villages, les écoles sont dehors, les écoles nous attendent, les gamins découvrent la course, découvrent la caravane publicitaire. C'est très amusant parce que j'ai eu une institutrice au téléphone qui disait à ses enfants, les coureurs arrivent. Puis tout d'un coup, elle me dit, non, ils ne savent pas ce que c'est qu'un coureur. Les cyclistes arrivent. Donc ça veut dire que, par quelque part, c'est aussi un peu un acte pédagogique. Je connais des écoles où ça fait déjà quelques mois, ils préparaient l'avenue des 4 jours de Dunkerque en expliquant ce que c'était que le vélo, comment on le faisait, qui intervenait, comment on calculait une moyenne. Donc ça va beaucoup plus loin que le monde du sport. Une course comme la nôtre, c'est quelque chose de sociétal et ça intéresse tout le monde, même les enfants. Moi, si vous voulez, je suis né l'année de création des 4 jours de Dunkerque et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le photographe officiel des 4 jours de Dunkerque était mon grand-père maternel et qu'à l'époque, dans la musette des coureurs, on y mettait du poulet et que la personne qui fournissait le poulet, c'était mon grand-père paternel. Donc je ne pouvais, suite à tout ça, que prendre la direction un jour des 4 jours de Dunkerque.
Donc dans la région, il y a de grandes courses cyclistes hein, et puis il y a évidemment le Tour de France. Comment ça se croise tout ça ? Est-ce qu'il y a des accords qui sont faits entre les différentes structures ?
Alors avec le Tour de France, il n'y a pas d'accord. Moi j'ai travaillé dans ma vie professionnelle pendant 14 ans, j'ai travaillé avec ASO, donc, qui organise le Tour de France. Je connais très très bien Christian Prudhomme, le président. Il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire que chacun fait sa course, on a un calendrier et on fait en fonction de ce calendrier. Donc il y a aujourd'hui, nous, 4 jours de Dunkerque, bon, on est la plus grosse course à étapes sur les Hauts-de-France. Donc on est parti du point de vue que l'on pouvait aider des courses moins importantes que la nôtre. Je pense à Fourmies, je pense à Isberg, à Denain. Et aujourd'hui, on est plus dans la grande famille du vélo, avec tous les organisateurs, pour dire d'avancer dans le même sens et d'aider, de s'aider les uns les autres.
J'imagine que quand on est coureur, on ne voit pas beaucoup le paysage. Enfin, je ne sais pas, j'imagine.
On ne voit pas le paysage. Moi, j'étais sur le Tour de France. J'ai fait 14 Tours de France, mais pas en tant que coureur, en tant que patron, du maillot à poids. Je peux vous dire que, un, je ne voyais jamais le paysage. Les gens me disaient « tu la connais toute la France ». Oui, ma voiture connaissait toute la France, mais moi pas. Et j'étais absolument incapable. Ça allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je retrouvais le coureur qui portait le maillot à pois à l'époque sur le podium. Et c'est mon fils, le soir, au téléphone, qui me disait « ah, t'as vu un tel ?» Je savais plus qui était le coureur que j'avais vu, à qui j'ai serré la main, parce que je gérais la manifestation. Je gérais mes invités sur l'épreuve. Mais j'étais absolument incapable. Vous m'auriez dit « t'as vu, il y avait le Mont Chauve ou le Mont Noir ?» Tu es incapable de vous dire « oui, il y avait ça ». Parce que vous êtes dans votre trip professionnel, vous y restez, vous ne voyez rien.
Par contre, j'imagine qu'ils ressentent beaucoup les dénivelés. Il y en a beaucoup dans votre parcours ?
Non, aujourd'hui, il y en avait un petit peu. Demain, il y en a un petit peu également. On a une étape vraiment où il y a du dénivelé, qui est le samedi, l'étape de Cassel, où là, on va avoir plus de 2200 mètres de dénivelé. Donc là, ça commence à causer un peu. Mais on n'est pas un pays de montagne, il faut pas vouloir être un pays de montagne. On a un petit truc chez nous qui s'appelle les pavés. Et je peux vous dire que l'étape de vendredi qui fera Valenciennes fin mars, ça va être une étape qui va être importante et qui peut être plus dure qu'une étape de montagne.
Voilà, donc bienvenue à Lens et bonne continuation. Hein.
Merci à vous, au plaisir.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
L'agglomération de Lens-Liévin a bien sûr été mise à contribution pour le passage et l'accompagnement de cette course. Quelques mots du vice-président de la communauté de communes chargée des sports.
Donc Laurent Poisson, vice-président au rayonnement sportif sur l'agglomération de Lens-Liévin.
Donc cette agglomération est très riche en événements sportifs, surtout en ce moment.
Surtout en ce moment et surtout cette année, oui, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé un petit défi, l'agglo Terre de Vélo, et on lance une application aujourd'hui, justement, ça roule, pour justement que les personnes puissent découvrir les activités qu'il va y avoir justement cette année, hein, puisqu'on a lancé avec le championnat du monde de cyclocross. On a les 4 jours de Dunkerque derrière, on a le Tour de France, on a le run and bike de la GLO, mais on a aussi d'autres activités qui vont être lancées. On a une course sur Vingles, on a différentes choses, hein, qui sont lancées cette année. On a l'inauguration du véloroute, mais sur la base du 11-19 aussi, qui va avoir lieu début juillet. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé le défi de se dire bah, tiens, on va inaugurer une application aujourd'hui, en lançant une application qui va à terme devenir une application avec des notifications pour la population de notre agglomération, qui recevront des notifications justement pour avoir les différentes choses qui seront programmées dans l'agglomération au niveau sportif, mais pas que.
Alors la pratique du vélo est très large, hein. On peut faire aussi de la randonnée tranquille pour visiter les paysages de l'Artois.
Donc oui, effectivement, on a aussi la chaîne des parcs, hein, sur notre agglomération, et donc cet été la population a la possibilité justement de rouler sur la chaîne des parcs et via l'application qui est lancée aujourd'hui de gagner des points pour avoir des lots en participant au jeu concours.
Les 4 jours de Dunkerque, c'est tous les ans à Lens maintenant ?
Non, c'est pas tous les ans à Lens. On a lancé un partenariat il y a déjà 3 ans en arrière. Moi, en tant que maire de Mazingarbe, j'avais lancé le dispositif sur l'agglomération et on avait accueilli les 4 jours de Dunkerque sur un village départ. Et ensuite, j'ai proposé à l'agglomération d'accueillir les 4 jours de Dunkerque sur le maximum de villes tous les ans. Et là, on vient de renouer un partenariat sur les 5 prochaines années.
Avec donc, une bonne quinzaine de villes croisées ici, traversées.
Alors aujourd'hui, 18 villes qui ont été traversées sur l'agglomération par les 4 jours. Et c'est une véritable bonheur, puisque la plupart des villes de l'agglo, enfin un peu plus de la moitié des villes ont été traversées. Et on a vu énormément de monde sur les routes, et notamment des enfants. Les écoles ont joué le jeu et les enfants étaient sur le bord des routes.
Alors c'est vrai que le temps, il était bien parti.
Alors on a eu un beau temps quasiment sur toute la route, un peu sur les collines de l'Artois où on a eu quelques gouttes. Et ici, à l'arrivée, un beau soleil. Et au moment de remettre les bouquets aux gagnants et aux vainqueurs, une pluie et qui a gâché un peu le spectacle. Mais voilà, le plus gros était fait.
C'est une grosse organisation pour l'agglomération ?
Alors c'est une organisation, oui, il y a une grosse organisation puisqu'il faut y trouver des signaleurs, il faut y mettre du barrage. Donc toutes les villes ont été sollicitées au niveau de leur service technique, mais pas que, il y a les services administratifs puisqu'il faut prendre des arrêtés. Mais le plus gros est fait par l'organisation des 4 jours, mais pour rappel, c'est que des bénévoles.
Donc à la fin de cette étape aujourd'hui, heureux ?
Oui, heureux. Heureux que ça s'est bien déroulé. En plus, une nouvelle formule avec cette première journée sur les 4 jours pour démarrer vraiment la première étape à partir de demain.
Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette.
Voilà donc pour cette classique lensoise des 4 jours de Dunkerque qui mettait en appétit coureurs et spectateurs pour les autres étapes qui se sont déroulées du 14 mai au 18 mai. Jour du retour à Dunkerque. Rendez-vous à l'an prochain. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6, libre de passer du bon son.
Mais t'avais dit que tu passais du bon son ?
Oh, mais j'avais pas promis. Et puis je suis libre.
Je me souviens d'une fille dans une ville là-bas. Il n'y avait que des soldats. Elle portait un t-shirt avec Sundance écrit dessus, la danse du soleil. Et quand elle bougeait son cul, fallait être blindé pour baisser la garde. Si toi aussi tu la regardes, t'auras envie de planter tes vieux crocs dans son cœur, sous sa peau mate comme dans une amande con chocolate. Ok. Avec Sundance écrit dessus, la danse du soleil, pour montrer ou cacher sa peau nue. Je connaissais pas les coutumes, je connaissais pas les usages. J'allais pas la ramener dans mon village. Les hommes font toujours n'importe quelle promesse pour un peu d'amour, un peu de tendresse ou un peu d'ivresse. Dangereuse, j'étais embarqué pour une guerre foireuse. Elle portait un t-shirt avec Sundance écrit dessus, la danse du soleil. Du soleil, y en avait plus. Du soleil, y en a ici. On est dans le noir, on regarde l'écran, y a que du brouillard. J'entends le tac-tac-tac, c'est les flingues qui claquent. Les filles attendent, les mecs qui se battent, les mecs qui se battent. une ville là-bas, il n'y avait que des soldats. Elle portait un t-shirt avec Sundance écrit dessus, la danse du soleil. Mais du soleil, il n'y en avait plus.
Could you do this to me? My love, my love, you were supposed to be. And I shouldn't have to tell you to explain yourself. My love, my love, could you do this to me? My love, my love, you're not enough for me. And I shouldn't have to tell you to explain yourself. All I have is your letter read, and I cannot get it out of my head. And I'm afraid and I can't breathe, and I'm in love with you, but you're not with me. And I have put so much into
Lavoine habite Saint-Omer et vient de sortir son premier livre, 100 histoires vraiment pas comme les autres. Cette aventure lui permet de vivre un rêve éveillé après une période compliquée professionnellement. Deux artistes connus partout en France ont même eu un coup de cœur pour ce livre. Patrick jongle avec les mots à travers ses 100 histoires très courtes et il a trouvé son style d'écriture d'abord en postulant pour un nouvel emploi sur le réseau social LinkedIn, comme il nous le raconte.
Bon, en fait, si on repart depuis pas trop longtemps, donc il y a à peu près 5 ans, lors de ma candidature dans le poste que j'occupe actuellement, j'ai publié sur LinkedIn l'histoire de cette candidature, avec des jeux de mots, en jouant sur les mots, en jouant sur les produits que vend l'enseigne dans laquelle je travaille. Mmh. Voilà, donc par exemple, donc c'est une enseigne d'électroménager, donc en fait, j'espérais que ma condensateur n'allait pas finir au frigo, que je n'allais pas faire un four, que je me regardais devant la glace avant de partir au rendez-vous de l'entretien, et je me disais, mais qu'est-ce que t'es laid, etc. etc. Ça a débuté comme ça. Et donc, je l'ai publié sur LinkedIn.
LinkedIn, on le rappelle, c'est un réseau social entre professionnels ou aussi des personnes cherchent un emploi, elles peuvent postuler aussi sur LinkedIn. Et c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître dans le domaine de l'écriture, on va dire, des jeux de mots, parce que maintenant, vous avez un peu plus de 10 000 abonnés, donc c'est pas mal.
C'est ça.
Et à la base, vous ne travaillez pas du tout là-dedans, vous avez toujours votre emploi actuel, mais vous me l'aviez dit, c'était un peu compliqué au niveau professionnel à une certaine période. Aujourd'hui, ça va mieux.
Oui, absolument, oui. Avant de candidater dans cette enseigne, en fait, j'avais une entreprise de récompense sportive et d'entreprise, donc on gravait des trophées, etc., donc, qui était située à Amiens à ce moment-là. Et au mois de mars 2020, il y a le Covid qui est passé par là, et donc l'arrêt total de toutes les activités sportives. Donc pour moi, plus rien à vendre. Et donc... avec mon épouse, on a attendu 2, 3, 4 mois et on s'est dit, bon, c'est fichu, quoi. Donc, la mort dans l'âme, en fait, on a clôturé cette entreprise au bout de 13 ans. Et donc, j'ai candidaté dans plusieurs entreprises.
Mmh. Et c'est comme ça qu'ensuite, vous êtes mis sur LinkedIn à faire des jeux de mots concernant ce nouvel emploi. Et vous vous êtes dit, je vais carrément faire tous ces jeux de mots-là dans un livre. C'est comme ça que ça s'est passé. On vous a aussi poussé un petit peu au travail à écrire.
Oui, on m'a énormément poussé d'ailleurs, puisque dès la publication de cette candidature LinkedIn, en fait, j'ai eu beaucoup de retours, de republications, etc. Et on m'a encouragé, on m'a dit, mais t'as quelque chose, t'as un style, t'es pas seulement, entre guillemets, rigolo avec tes jeux de mots, t'as aussi un style, tu sais raconter des histoires. Et on t'encourage à persévérer. Donc petit à petit, j'en ai republié une autre histoire, deux histoires, trois histoires, 10 histoires sur LinkedIn, et à chaque fois, ça avait de plus en plus de succès. J'avais de plus en plus de demandes d'abonnement, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Tiens, et j'en étais absolument pas conscient. Et on m'a dit, mais va jusqu'au bout, publie, et nous, on va être derrière toi, on va t'encourager. Voilà, et donc c'est venu comme ça, où je me suis dit, tiens, allez, on y va. C'est une aventure, je ne risque rien.
Et c'est comme ça que vous avez donc créé ce premier roman qui s'appelle « Sans histoire, vraiment pas comme les autres ». Vraiment pas comme les autres, c'est important de le préciser. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à des petits sketchs de genre de blagues aussi. Mais finalement, ce sont aussi de vraies histoires.
Ce sont de vraies histoires puisque, en base, au début, je me suis amusé à prendre des collègues de travail comme exemple en me disant « Tiens, je vais lui réinventer une vie. » Ou alors, je demandais carrément à mes collègues de travail « Qu'est-ce que tu aurais aimé ? C'était quoi ton rêve de gosse ?» S'il me dit « Je voulais être pilote de Formule 1 », boum, c'est parti. Et je vais faire une histoire sur sa vie rêvée, mais en jouant sur les mots, en jonglant avec les mots. C'est pareil, je fais la même chose avec le monde animal, la géographie, etc. Donc, les histoires durent entre 2 et 4 pages. C'est format court, on met 2 minutes, 3 minutes à les lire, mais ça permet aussi d'y revenir et de ne pas s'ennuyer, parce que les thèmes sont complètement différents à chaque fois.
Puis on retrouve aussi ces sortes de candidatures comme vous l'avez fait sur LinkedIn. Par exemple, recrute homme ou femme de ménage. Et vous avez écrit, chez nous, pas besoin de diplôme, on s'en balait steak. Balai comme un balai,
ouais, voilà.
Pour faire le ménage.
Et voilà, vous avez choisi un bon exemple. Louise, bravo, parce que c'est vraiment, voilà, c'est ça le fil rouge du bouquin. Mais ce n'est pas qu'une succession de jeux de mots, il y a du liant, etc. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est vraiment le fil rouge du livre. En fait.
Et vous l'avez dit, vous parlez aussi du monde animal. Il y a une histoire qui s'appelle les chauves-souris. Mais finalement, c'est les chauves, comme une personne chauve, qui sont en train de sourire, les chauves-souris.
Voilà, c'est ça. Et ça me parle.
Oui, puisqu'on ne le voit pas, mais vous n'avez pas beaucoup de cheveux.
Oui, alors il paraît qu'il pousse à l'intérieur, c'est pour ça que ça me chatouille l'esprit. D'où les histoires qui en ressortent.
Et puis d'ailleurs, sur la dernière page du... Comment, je ne sais plus, la page de couverture, elle est...
La dernière de couverture, la dernière, quatrième.
La quatrième, j'ai perdu le terme. Et d'ailleurs, sur la quatrième de couverture, on a même de faux avis, mais bien inventés, parce qu'apparemment, Novak a lu votre bouquin et a écrit « C'est trop de la balle ». Je rappelle, joueur de tennis bien connu. Donc, des jeux de mots de partout dans ce roman qui se lit très bien. Et vous l'avez écrit tous les jours pendant 2 ans. Ça a quand même été un gros travail.
C'est ça, tous les jours, parce que, comme je vous l'ai rappelé, j'ai un travail. Et donc, mais je fais aussi un lève-tôt, je me lève assez tôt, vers 4h30, Et donc, ce qui m'a laissé le temps pour écrire, et c'est surtout le matin où j'ai pas mal d'idées, etc. Et j'écris aussi le soir, dans le canapé, tranquille, le week-end, ce qui me permet également de commencer d'autres choses, d'autres pistes de livres également. Voilà.
Et alors, vous vous êtes dit, il y a quelques mois, tiens, je vais envoyer ce livre à une certaine Amélie Nothomb, qui, je le rappelle, a quand même vendu plus de 20 millions de romans à travers le monde, et à un certain Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs, il y a une de vos histoires qui s'appelle « À nos actes manqués », comme l'un des titres de Jean-Jacques Goldman.
C'est ça, il fallait oser, ouais. J'ai osé. Il y a un célèbre réalisateur, Jacques Audiard, pour ceux qui le connaissent, enfin qui le connaissaient, qui disait les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Ben voilà, ben, je suis un heureux con, parce que j'ai osé. Amélie Nothomb, je lui ai envoyé une lettre un peu loufoque, décalée, avec le bouquin. Et un matin au travail, il était 8h moins le quart, et j'ai reçu un coup de fil et un appel masqué. Et cet appel masqué, bon, en général, je ne décroche absolument jamais aux appels masqués. Je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Et la conversation s'est entamée, et j'ai entendu « Allô, Patrick Lavoine ?»« Oui, c'est Amélie. » Amélie Nothomb, c'est pas possible quoi. Et donc on est parti sur une petite discussion d'un bon quart d'heure. Je peux vous dire que toute la journée j'étais sur un petit nuage. Personne pouvait me parler parce que je faisais pas attention. J'étais ailleurs parce que la discussion était vraiment riche. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup ri, qu'elle avait rarement autant ri et que je méritais d'être mis en avant, etc. Enfin que des paroles qui tournent encore en boucle dans ma tête. Et bon, je ne me suis pas arrêté là, puisque je vais envoyer pour la remercier, j'ai créé une histoire avec tous les noms de ses romans. Et elle m'a étonnamment envoyé, elle m'a fêté ma bonne fête le 17 mars.
La Saint-Patrick.
La Saint-Patrick. Dans la boîte aux lettres, le jour même, il y avait un dépliant avec des mots très, très... Enfin, comme ça lui ressemble, en fait, vraiment. Amélie Nothomb, c'est vraiment une dame... La dame au chapeau, vraiment, qui est aussi pétillante que les bulles qu'elle affectionne tant. Quoi. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire.
Et on savait que Jean-Jacques Goldman est quelqu'un de simple et humble, mais pour qu'il réponde à quelqu'un, je pense que quand même que ça lui a touché aussi le fait que vous lui envoyiez ce roman, et surtout comme à Amélie Nothomb, une lettre bien personnalisée, avec certains jeux de mots. Et puis là, c'était plus une sorte de confidence, puisque c'est un artiste qui vous a pas mal accompagné.
C'est ça, oui, depuis l'adolescence, depuis la sortie de son premier album, je crois que c'était en 64. 14, 17, enfin bon, dans ces eaux-là. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi. J'aime beaucoup, comme beaucoup de Français et de Françaises, sa discrétion, ce qui fait aussi son succès, paradoxalement. Mais c'est aussi une forme de challenge, de défi, parce que, bon, on m'avait dit, Jean-Jacques Goldman, accroche-toi si tu veux qu'il te réponde. Il va falloir vraiment employer, sortir l'artillerie légère. Voilà. Et j'ai repris pas mal de titres de ses chansons, j'ai fait une petite histoire. Et également, j'ai mis un texte qui est vraiment très cash, mais aussi décalé, sur ma vie et comment j'en étais arrivé là. Et j'ai joint forcément le bouquin avec une dédicace personnalisée, etc.
Et lui aussi vous a répondu ?
Eh bien oui, il m'a répondu. Et comme vous pouvez le constater, c'est une vraie réponse, écrite au feutre, avec des smileys, etc.
Je l'ai vu.
C'est pas un carton imprimé comme on peut le faire, mais déjà, j'aurais été déjà fort content.
Est-ce qu'on a le droit d'en lire une partie ou lire
Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors juste pour rappel, Jean-Jacques Goldman, dans ses chansons, il y en a une qui s'appelle Indélébile. C'est pour ça qu'il en reparle. Et donc, je lui avais simplement dit également que j'espérais que le livre lui laisserait un sourire indélébile. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il me répond, sourire bien dessiné, Patrick, avec un petit smiley. Indélébile, à vérifier, les raisons. Les raisons de l'effacer sont assez nombreuses, malheureusement, par les temps qui courent, avec un petit smiley bad. Mais une petite dose de lecture de votre livre et il revient. C'est magique. Merci, tous mes voeux et santé à madame et à vous, riches l'un de l'autre, amicalement, Jean-Jacques Goldman. Que dire de plus ?
Voilà, vous allez l'encadrer, c'est sûr.
Je vais l'encadrer avant de l'abîmer, effectivement. Mmh. Et pour la petite anecdote, c'était en sortant le chien. Et le pauvre chien n'a pas eu de sortie parce que j'ai ouvert la boîte aux lettres avant. J'ai fait une mise tout de suite à la maison. Et il était très tôt, 6h30, je ne me rappelle plus. C'était le courrier de la veille. J'ai réveillé madame, j'ai dit « Regarde ça, c'est extraordinaire ». Et voilà. Bon, j'ai ressorti le chien après quand je me suis apaisé. Mais ça, c'est quand même assez dingue, quoi.
Alors, pour ce premier roman, vous vous êtes édité vous-même. Vous avez d'autres projets, je suppose, d'autres idées de romans, peut-être pas sous la même forme ?
Non. Là, ce sera vraiment... Là, c'est donc, on va dire que c'est plutôt un recueil d'histoires. Et là, le prochain, donc, qui est presque terminé, c'est un roman, puisque j'étais dans ma vie, j'étais cafetier. J'avais un bar tabac à l'âge de 25 ans. un bar-tabac dans un quartier difficile de Calais. Et je connaissais très très bien les clients puisque j'avais grandi dans ce bar-tabac jusqu'à l'âge de 18 ans. C'était le bar-tabac de mes parents que j'ai repris 6-8 ans après. Et avec des parcours des clients qui traînent des casseroles, des clients atypiques mais très très attachants, qui ont eu une vie dure, qui avaient une vie dure. Moi, c'est des gens auxquels je me suis attaché énormément parce que ben, je les aidais dans leurs démarches, etc. En guise de récompense, ils m'amenaient un 4-quarts, un couscous, une soupe à l'oignon du jardin dans les jardins ouvriers qui étaient proches du bistrot. Et c'était une expérience formidable. Et donc, je raconte ça dans un roman, bien entendu à ma façon, donc avec un style. C'est pas des jeux de mots, mais c'est autre chose. Mais on aura le sourire, même s'il y a des histoires qui ne sont pas très sympas sur certaines personnes, parce que bah, ils ont eu des vies très, très, très compliquées. J'y ai rajouté forcément un petit peu de suspense avec une intrigue principale qui n'existe pas dans la vraie vie, mais c'est pour donner du piment à cette histoire, qui est l'incendie du bistrot, quoi, en fait. Avec des propriétaires de bistrot qui ne sont pas assurés, bien évidemment. Et donc, voilà. Je raconte après toute la chaîne de solidarité qui se passe, des événements très inattendus. Voilà. Et j'ai resitué cette histoire dans les années 70 pour lui donner un côté vraiment vintage. Une autre époque, on va dire, où ce n'est pas forcément une bonne époque, parce que ben, je viens de là, je ne suis pas un vieux voilà, et CEN, mais où j'avais, par exemple, ce qui m'a marqué, le commercial de Citroën qui venait, un vendeur de voitures qui venait, et qui buvait 4-5 suisses, et puis après qui repartait en tournée chez les clients, etc. C'était autre chose. Je ne dis pas que c'était mieux, mais c'était autre chose. Voilà. Et j'ai voulu replonger totalement le lecteur dans cette ambiance vintage.
Et on l'espère donc pour vous, peut-être trouver un éditeur, pourquoi pas celui d'Amélie Nothomb, elle ne peut pas vous donner un petit coup de pouce?
Ben pourquoi pas. Je vous fais un petit clin d'œil, peut-être. c'est peut-être la piste, effectivement. Et donc, forcément, le manuscrit, je vais le soumettre à 2-3 éditeurs et forcément je vais l'envoyer à Amélie. Ça me permet de l'appeler Amélie parce qu'au bout de 2-3 courriers,
bah oui,
on est proche. Hein. je vais me permettre, comme j'aime à dire, la vie m'a fait pas mal de croche-pieds, mais en ce moment elle a tendance à me faire à courte échelle, donc je vais essayer d'en profiter un petit peu. C'est pas mal d'être un petit peu égoïste de temps en temps, c'est pas malsain, voilà.
Vous pourrez donc commander son livre « 100 histoires vraiment pas comme les autres » sur son site patricklavoine.fr. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
L'association La Récréation vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin 2025 à Fléchin pour le Festival d'art de rue « Mais où va-t-on ?» Théâtre à ciel ouvert, en forêt, cirque aérien, marionnettes urbain public, danse percutante, concerts déjantés, entresorts participatifs, venez découvrir une programmation éclectique joyeuse, engagée et poétique pour rêver, rire et résister ensemble. En complicité avec les habitants du territoire. Infos et programmes sur l-arrêt-création.fr.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
C'est connu à Côte-Vertu, direction Henri Bourassa. Côte-Vertu, ça rime avec cul. Pense déjà ceux qui pensent qu'à ça. Comme il me pose la question, je lui dis que je m'en vais voir Lucienne, que je sors à la prochaine station. Il me dit qu'il a raté la sienne, la sienne. Il s'est assis en face de moi. J'avais pas affaire à un môme. Il avait l'air tout en émoi, et moi tout en l'air à Vendôme. Je me souviens d'un coup de frein survenu à Lucien Lallier, suivi par un violent coup de rein qui m'a laissé folle alliée, alliée dans le wagon. Pas un kidam, la bonne aventure sans arrêt. Les mains s'affolent, périucam. J'ai dû rater quelques arrêts. Quelques énervés nous entourent, qui revenaient d'un show de Mitsou, et jettent un froid sur nos amours. Faute de temps, j'ai rien mis dessous. Tout le monde descend à Jean Talon, tandis que monte mon désir. J'extorque de mon pantalon une capote garantie à venir. Allez mon chou, habite-on sec, c'est dans les clauses du contrat. Tous ceux qui l'ont mis à l'index un jour s'en sont mordu les doigts, ils montent là-dessus. Station Charrie, vite fait bien fait, on a fait ça tout cramoisi, à crémasi. Terminus Henri Bourassa. Ainsi s'achève notre histoire, commencée à Côte-Vertu. À bien regarder la trajectoire, normal que ça rime avec cul.
Les Jardins du Carmel est une résidence intergénérationnelle à Douai qui accueille des personnes en situation de précarité et à faibles ressources, favorisant les liens et la solidarité entre les générations. Le site a abrité pendant près de 100 ans une congrégation religieuse de sœurs carmélites avant d'être abandonnée. Puis, en 2020, après d'importants travaux réalisés par Habitat et Humanisme Nord-Pas-de-Calais, le Carmel a retrouvé sa forme et son allure, modernisée, adaptée pour accueillir les familles, les jeunes et les personnes âgées auxquelles il est maintenant destiné. Pour en parler, Jean-Michel a rencontré Muriel, animatrice d'atelier, ainsi que Christine, que voici, qui est la coordinatrice et animatrice des seniors.
Le Carmel a été donné par les Carmélites à Bernard Devers, qui est fondateur d'Habitat Humanisme au niveau national. Et l'association Habitat Humanisme a fait une réhabilitation complète du Carmel. Et c'est devenu une résidence intergénérationnelle. Donc on a 37 logements actuellement, enfin 37 logements, et on accueille jusqu'à 58 personnes qui vivent là, de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, des familles monoparentales et des seniors.
Alors, les résidents actuels qui sont là depuis en fait combien de temps? Parce que j'imagine qu'il y a eu quelques années de travaux.
Il y a eu de très nombreuses années de travaux entrecoupées par le Covid, ce qui n'a pas arrangé les choses. Et la résidence a ouvert en mai 2023 avec les premiers résidents qui sont arrivés. En fait, on est reconnu comme structure sociale. On a des logements sociaux et les gens sont recrutés. On va les rencontrer à domicile, ils ont le même process de recrutement que pour tout logement social. Et ce qu'on demande également, c'est de pouvoir valider les valeurs qui sont celles d'Habitat Humanisme, qui sont celles de la bienveillance, de l'entraide, du bien vivre ensemble. Et c'est par rapport à ça, quand on voit qu'il y a un vrai souhait à partager la vie de la résidence, qu'on peut faire entrer quelqu'un dans la résidence.
Alors justement, on va s'extraire quelques instants de la résidence elle-même. L'association Habitat Humanisme, est-ce que vous pouvez nous la présenter davantage?
Alors, Habitat Humanisme existe depuis bientôt 40 ans, puisqu'on fête nos 40 ans là au mois de juin. C'est parti de l'idée de Bernard Devers qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de monde qui était en recherche de logements, qui était un peu laissé de côté. Et des résidences comme celle-ci ou des logements dans le diffus ont été gérés par Habitat Humanisme qui propose un bail de location, mais également un accompagnement social.
Et alors, votre fonction ici, c'est l'animation?
Oui, l'animation, la coordination. Je m'occupe d'un groupe de seniors. On a 16 seniors dans la résidence et 10 font partie de ce qu'on appelle l'AVP, l'aide à la vie partagée. Et je suis là pour les aider à rester chez eux le plus longtemps possible, en créant des animations bien sûr, mais en les accompagnant dans toutes les étapes de leur vie.
Et alors, ces animations, ça consiste en quoi?
Les animations sont très variées. Ça peut être un simple goûter, comme on le fait là cet après-midi, qui a été préparé par les locataires ce matin. Ça peut être des séances de théâtre, des séances de photo, un atelier photo que l'on a actuellement. Ça peut être des sorties à l'extérieur ou des moments simplement conviviaux où on va partager un repas, on va jardiner ensemble. Tout ce qui, en fait, va faire envie aux personnes et qu'on va installer, qu'on va préparer ensemble.
Alors, en dehors de ces personnes, il y a d'autres catégories de résidents.
Tout à fait, puisqu'on est 58 actuellement, donc le plus jeune a 6 mois maintenant. Le monsieur le plus âgé a 87 ans, donc on a vraiment aussi bien des seniors que des personnes de jeunes célibataires qui travaillent ou pas, qui sont en famille monoparentale ou pas. On a vraiment tout public.
Afin de parler des projets de la résidence intergénérationnelle Les Jardins du Carmel, Jean-Michel a aussi rencontré Muriel, animatrice d'un atelier théâtre ainsi que d'un atelier chansons françaises.
Alors en fait, moi je mène deux projets. Alors plus précisément, moi je suis rentrée dans la résidence en tant que bénévole il y a un an, un peu plus d'un an. J'ai proposé mes services pour animer un atelier théâtre qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est très intergénérationnel puisque notre groupe d'acteurs, le plus jeune a 23 ans et la personne la plus âgée en a 81. Nous verrons voir le jour au mois de juillet prochain notre quatrième représentation avec affichage à l'appui à chaque fois, distribution de flyers lorsqu'on le peut. Et puis je trouvais qu'il était intéressant de proposer un autre atelier qui est effectivement la chanson française que moi j'anime une fois par mois. Alors le format est assez simple. Les personnes qui font partie de ce groupe proposent à chaque séance un chanteur, une chanteuse, un groupe, un style de musique. Je trouvais ça plus intéressant plutôt que de débattre comme ça oralement sans avoir une trame bien précise, qu'ils nous proposent un exposé, c'est un peu ce qu'ils font d'ailleurs. On discute ensuite sur cet exposé, peut-être y a-t-il des choses qui nous ont manqué, on en discute ensemble. Loin de là, critiquer le travail fourni, c'est pas du tout le but de ces ateliers, au contraire. Et puis ensuite, les personnes qui ont donc choisi ce chanteur ou cette chanteuse ou ce style de musique, en extrait deux ou trois chansons. Et puis la séance se termine par de la chanson et du karaoké.
Oui, j'ai oublié de préciser, en fait, l'association, ici au Jardin du Carmel, on est deux salariés, Delphine Grassoff, qui est la responsable, et moi-même. Et la grande chance et la grande force d'Habitat Humanisme, c'est d'avoir toute une équipe de bénévoles autour de nous. Aussi bien un bénévole responsable qui est Jocelyn Auger, que des bénévoles qui vont intervenir dans le bricolage, par exemple, ou dans des ateliers comme celui que mène Muriel. Ça, c'est notre grande force, puisque ça nous permet d'apporter plein de choses supplémentaires aux personnes qui vivent ici.
Et alors, la radio, dans ce cas-là, en quoi est-ce que ça peut vous apporter quelque chose ?
Alors, nous allons terminer notre représentation qui verra donc le jour le 4 juillet. C'est notre quatrième enfant. Nous sommes une famille nombreuse maintenant à l'atelier théâtre. Ça marche bien. Alors, je veux préciser une chose. La résidence intergénérationnelle, et je me bats pour ça, et Christine Bogart, avec laquelle je travaille, me rejoint tout à fait là-dessus. Je ne voulais pas que l'atelier théâtre soit l'antichambre d'un EHPAD. Je m'explique. Au tout début, nous avons commencé par du texte, donc papier en main. Et puis, très vite, on a vraiment joué la carte du théâtre. Et maintenant, on arrive, ils arrivent à travailler maintenant sans l'appui de texte, c'est-à-dire qu'ils apprennent leur texte comme toute bonne troupe de théâtre qui se respecte. Alors la radio, oui, on va créer, je pense, un pont avec la radio, ça sera notre projet futur. On espère que les choses pourront voir le jour au mois de décembre ou janvier prochain, parce qu'on voudrait peut-être, sous forme d'épisode, donner la possibilité aux gens d'abord de connaître le Carmel, avec un petit historique sur le Carmel, les activités qui y sont proposées, et puis ça sera une manière pour nous de passer à un autre exercice, c'est-à-dire le travail de la radio. Parler derrière un micro, préparer ses textes, sous quel angle, poser sa voix. On ne pose pas sa voix de la même manière au théâtre qu'on ne la pose à la radio. Donc voilà, je pense que c'est un nouvel exercice vers lequel on se destine, et je pense que ça sera le plus, et puis ça nous permettra d'étoffer les ateliers qui déjà existent au Carmel à ce jour.
Mais alors, avec un contenu qui serait...
Alors, comme l'on dit en termes de radio, avec du prêt à diffuser, c'est-à-dire qu'il faudra tailler dans la masse, forcément, puisqu'on fera ça en plusieurs épisodes. Le contenu sera donc la naissance du Carmel, parce que le Carmel a vu le jour un jour, forcément. Les personnes qui ont habité le Carmel, donc on essaiera d'avoir des témoignages, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages lorsque l'on fait de la radio. Et puis, bien évidemment, on pourra faire participer les personnes qui animent nos ateliers aujourd'hui. Je pense à André Jacquard qui lui s'occupe de la photo. Et puis des personnes, moi je donne un exemple, nous avons François qui à chaque représentation veut bien nous faire tout ce qui est la lumière, la mise en place des lumières, des projecteurs. Donc je pense que ça sera quelque chose de familial au niveau de la démarche. Et puis on essaiera de faire de notre mieux pour que tout le monde puisse y participer et apporter sa pierre à l'édifice, comme on essaie de le faire depuis le démarrage du Carmel et l'accueil que l'on souhaite réserver. Et la porte est grande ouverte, bien évidemment. Donc, nos représentations fonctionnent bien. On a du monde, les gens s'y intéressent. Et puis, on espère que le produit radio aura le même succès que l'on a aujourd'hui pour le produit théâtre et chansons françaises.
Et alors, vous disiez, Christine, qu'on rejoint tout à fait les valeurs de l'association.
C'est en ça que ça fonctionne si bien, je pense, c'est que les gens qui sont venus habiter chez nous cherchent cette entraide, cette écoute, ce respect l'un de l'autre. Et avec le théâtre, on est complètement dedans. Enfin, le théâtre est un outil pour pouvoir mettre en exergue ces valeurs et pouvoir les cultiver chez tout le monde, chez tous.
Alors, lorsque l'on a commencé l'atelier théâtre, il y a de cela un an et demi à peu près, le théâtre, c'est un univers très particulier, c'est-à-dire que entre guillemets, l'univers, on se met à poil, je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut vaincre une timidité, il faut partager une vie de groupe et de troupe. C'est d'ailleurs le mot consacré, moi j'y tiens beaucoup, c'est une troupe. Donc la première représentation que l'on a mis en place, c'était du texte lu, mais joué, à ne pas confondre. Lire un texte n'est pas une banalité en soi. Lorsqu'on lit un texte, il faut qu'il soit joué, il faut se nourrir d'images, il faut que vous, la personne qui assistait à la représentation, ayez vous aussi les images en tête. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. C'était notre première représentation. Et puis, comme nous avons un panel d'âge assez large, on a commencé à quitter le texte. Mais deux solutions nous étaient offertes. Soit nous allions travailler sur de l'existant, que moi je trouve compliqué, parce que bien que ce soit ou du contemporain ou du classique, les mots à apprendre ne sont pas les leurs, et je trouvais ça un peu compliqué. Donc, la deuxième représentation, ça a été du fait maison de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que nous travaillons ensemble les textes, les scénarios mis en place, le conducteur, la lumière, les déplacements. Et c'est comme ça que nous travaillons et on en est comme je le disais précédemment, à notre quatrième représentation avec plus de texte en main, du déplacement, de l'écoute et un conducteur.
C'était Jean-Michel, animateur de Radio Scarbe Sensée, qui a pu rencontrer Christine et Muriel des Jardins du Carmel, une résidence intergénérationnelle à Douai. Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur le site habitat-humanisme.org. Interview de Jean-Michel Hoge et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarbe Sensée.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Françaises, Français, vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6, la radio qui n'a pas de fracture.
Charmant jeune homme, propose contre quelques sous, sexe et plaisir à domicile à toute heure et sans rendez-vous. Tantôt les mecs, tantôt les filles, je suis assez polyvalent. Doc à coque ou talon aiguille, je satisfais tous mes clients. Chez moi tout est philosophie, mon commerce la nature humaine. Approchez, j'offre du sursis déguisé en levrette indienne. Allez madame, monsieur, on y va, c'est parti, je vous fais l'article. J'ai des petites poignées d'amour, j'ai une langue, c'est un mythe. Et j'ai ce cul, c'est un petit fou. Comment ? Mon outil, 3 kilos de type latin, un rien convexe. Endurant, souple, généreux, conçu et taillé pour le sexe. Le sexe. Sans excès ni modération, il répond vite au cri du loup. Peu importe la destination, peu regardant sur les tables. Et je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe, mayday, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe, mayday, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe. Sainte utilité publique, mes caresses sont prodiges et cœur en dame république. Je voudrais être subventionné, avoir escorte de motards, être en soi laissé passer avec sirène et gyrophare. Pimpon, pimpon, prenez-moi ceci et mon corps, partagez-moi si ça vous dit. Le paradis est un trésor qu'il faut chasser à coups de fil. J'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe, mayday, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe, mayday, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, d'appel au secours, d'appel au sexe. Parfois la cliente est grincheuse, elle me déglingue la vitrine. Ça la rend dingue, elle est heureuse de me voir lécher ses latrines. Ou bien alors pour ses besoins, elle se costume en jeune mariée. Quelques amis jouent les témoins. Et moi, je suis la pièce montée. La, 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 la. Allez, Geoffroy, joue. Oh, pas mal. À toi, Chabounet. Dis donc, t'es pas manchot, hein.
j'appelle au secours, j'appelle au sexe, mayday, mayday. Oui, je cours de couche en couche, j'appelle au secours, j'appelle au secours, j'appelle au sexe. Et je cours de couche en couche, d'appel au secours, d'appel au secours. Oui, je cours de couche en couche, d'appel au secours, d'appel au secours. Mayday, mayday, mayday. Mayday, 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 mayday,
supplie d'arrêter, c'est là que la fête commence. La fête commence. La fête commence.
Le lundi à la fistinière, on te libre et file derrière. Le mardi, c'est permis. C'est parti, on t'introduit, oui, bienvenue à la fistinière. On te met tout dans le derrière, oui, du lundi au dimanche. On y va jusqu'à la Manche, le mercredi, ça lâche son spleen. Tout le monde va à Chapelle Fistine. Le jeudi, attention, ça finit au parc d'attractions, oui, bienvenue à la fistinière. À la chaîne, on te met 3 mètres de traîne. Le samedi, là t'as mal, on te met un animal. Oui, bienvenue à la fistinière. On te met tout dans le derrière, oui, du lundi au dimanche. On y va jusqu'à la Manche. Oui, bienvenue à la fistinière. C'est détente, ça finit par une petite pétanque. Oui, bienvenue à la fistinière. On te met tout dans le derrière. Oui, du lundi au dimanche. On y va jusqu'à la Manche. Oui, bienvenue à la fistinière. On te met tout dedans. Oui, du lundi au dimanche. On y va jusqu'à la Manche.
Un peu mieux, des gens un peu mieux baisés dans la vie, je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'agressivité.
Vous écoutez